Bonjour. Alors nous en sommes à la première journée de la retraite. Et comme vous le savez, les premiers jours d'une retraite sont sans doute les plus difficiles. Chacun de nous porte encore dans son propre cœur et son propre esprit toute l'agitation de la vie quotidienne, les préoccupations et les inquiétudes. Ce qui a été laissé en plan et reste inachevé. Il y a aussi tous ces espoirs que l'on apporte avec soi lorsque l'on commence une retraite. Ces espoirs d'éveil et d'émerveillement qui nous pressent d'aller toujours plus vite, de ne perdre aucun instant, de courir vers l'éveil sans jamais faillir. Et l'on se sent fatigué. Le corps peine à s'adapter au peu de sommeil et aux longues heures de zazen. Notre esprit est agité, notre cœur désorienté, et l'on n'arrive pas vraiment à s'apaiser. L'on se sent vulnérable, comme un oiseau qui peine à s'envoler. Faites simplement de votre mieux. Assoyez-vous en zazen, avec votre esprit agité, votre insécurité et tous vos doutes. Au milieu de toutes les pensées qui vont et viennent en vous, laissez lentement votre respiration trouver son rythme naturel. Ne forcez rien. Laissez peu à peu les choses s'apaiser d'elles-mêmes, de leur propre accord. Et en leur propre temps. Ayez confiance en votre pratique. Si vous ne refusez rien et ne retenez rien de tout ce qui se manifeste en vous, si vous n'intervenez pas pour en changer quoi que ce soit, si vous faites de votre mieux dès maintenant pour rester ouvert à tout ce qui est, alors vous le verrez. Tout ira bien. Les choses se libéreront d'elles-mêmes et d'instant en instant, votre propre vie vous montrera le chemin à suivre. Ayez confiance. Nous avons 5 merveilleuses journées devant nous. Comme nous rappelle notre vieux maître, M. Lowe, le travail spirituel vient du besoin de la vérité. Nous connaissons la vérité parce que nous sommes la vérité. En effet, c'est parce que nous sommes la vérité que nous la cherchons. C'est parce que nous sommes l'unité et le tout que nous cherchons l'unité. Aujourd'hui, j'aimerais commencer ce premier mot d'accompagnement en vous racontant une histoire. Un jour, le maître Nangaku, l'un des successeurs de Huineng, le 6e patriarche du Zen en Chine, remarqua un jeune moine qui, semblait-il, ne faisait rien d'autre que pratiquer zazen jour et nuit. Il lui demanda, « Dis-moi, que fais-tu? » Le moine répondit, « Je pratique zazen. » Nangaku poursuivit, « Et qu'espères-tu accomplir en pratiquant zazen? » « J'essaie seulement de devenir un Bouddha, » répondit le moine. Nangaku se retira alors, et sans rien dire, ramassa un morceau de brique et commença à le polir avec une meule. Intrigué, le moine demanda, « Mais qu'essayez-vous d'accomplir en polissant cette brique? » Nangaku lui répondit, « Je veux en faire un miroir. » Surpris par cette réponse, le moine demanda, Peut-on vraiment créer un miroir en polissant une brique? Et Nangaku lui dit alors, peut-on vraiment devenir un Bouddha en pratiquant Zazen? Le moine dit alors, qu'est-ce que je dois faire? Nangaku lui répondit, c'est comme atteler un bœuf à une charrette. Si la charrette n'avance pas, vaut-il mieux frapper le bœuf ou la charrette? Le moine ne sut quoi répondre. Nangaku continua en disant, « Tu pratiques Zazen et tu espères devenir un Bouddha en restant assis. Si tu veux vraiment pratiquer Zazen, tu dois d'abord savoir que le zen n'a rien à faire avec le fait d'être assis ou couché. Si tu veux devenir un Bouddha en zazen, sache que Bouddha n'a aucune forme fixe. Ne discrimine pas, ne t'attache à rien. Si tu essaies de devenir un Bouddha en restant assis en zazen, tu tueras le Bouddha. Si tu t'attaches à rester assis, tu n'atteindras jamais la bouddhéité. » Les mots du maître touchèrent l'esprit du moine. Il en pressentait la vérité. Il décida alors de rester auprès de maître Nangaku. Et après de longues années d'une formation rigoureuse, il devint son successeur. Ce moine s'appelait Matsu. Nous sommes en Chine, au 8e siècle, mais nous pourrions tout aussi bien être ici, aujourd'hui même, dans ce zen. Posez-vous une simple question. Qu'essayez-vous d'accomplir en pratiquant Zazen? Qu'espérez-vous atteindre? Y a-t-il quoi que ce soit? Ne vous empressez pas de répondre. Laissez simplement cette question prendre une certaine place dans votre vie. Laissez-la vous habiter et tourner dans votre esprit, pour ainsi dire. Cherchez-la en vous. Essayez de lui donner une voix. Tendez l'oreille. Intéressez-vous à elle avec une sorte de curiosité bienveillante. Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir en pratiquant sa scène? Vous le savez, nous arrivons presque toujours au zen avec l'espoir d'y trouver quelque chose. Mais que cherchons-nous? Lors des ateliers d'introduction que nous animons au centre, les gens disent chercher la vérité, le bien-être, le soulagement, le calme, la sérénité et tant d'autres choses, afin, disent-ils, de vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Quelque chose nous manque, semble-t-il. Mais qu'est-ce que c'est? Nous n'arrivons pas à le dire, n'est-ce pas? Nous parlons de bonheur, de vérité, de bien-être ou de sérénité. Mais ce ne sont là que des mots. Nous le savons bien. Et derrière tous ces mots, il reste toujours une question inarticulée qui ne s'apaise pas en nous. Elle exige une réponse, là où pourtant aucune réponse ne peut être donnée. Elle nous presse de répondre, mais dès que l'on ouvre la bouche, dès que la moindre réponse franchit nos lèvres, nous savons déjà que nous en avons trop dit, que tous nos mots sont inutiles et qu'encore une fois, nous nous sommes trahis nous-mêmes. Matsu a demandé à son maître, « Que dois-je faire ?» Et Nangaku lui a répondu, « Sache que Bouddha n'a aucune forme fixe. Ne discrimine pas. Ne t'attache à rien. » Nous sommes en Chine, au 8e siècle, mais nous pourrions tout aussi bien être ici, aujourd'hui même, dans ce Zendo. Nangaku est parmi nous. Il parle à chacun d'entre nous. Sache que Bouddha n'a aucune forme fixe. Ne discrimine pas. Ne t'attache à rien. Que nous dit-il ? Vraiment. Écoutez bien. Un jour, un moine demanda à Matsu, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Matsu répondit, « L'esprit, c'est le Bouddha. » C'est le 30e koan du Momonkan. Matsu, le jeune moine qui voulait devenir un Bouddha, est maintenant l'un des plus importants maîtres du Zen en Chine. On l'appelle le patriarche Ma. Il a succédé à son maître Nangaku, et l'enseignement qu'il prodigue à ses nombreux disciples est très exigeant. Il se sert de cris brusques, de gestes muets, ou de coups de bâton inattendus. Il précipite ses disciples par terre, leur tord le nez ou les oreilles, les bombarde de questions brutales ou de réponses sans queue ni tête, afin de les aider à se libérer des voies toutes tracées par ce qu'il appelle la conscience ordinaire, cette pensée rationnelle, dualiste, qui discrimine sans cesse et semble avoir réponse à tout. Il pousse ses disciples vers l'humiliation, l'inconfort et l'incertitude, afin qu'ils en viennent à douter d'eux-mêmes et de leurs si précieuses convictions. Il veut qu'ils arrivent un jour à connaître l'expérience de l'éveil par l'effondrement brutal de leur mode de penser et de sentir. Matsu sera le maître de Yakujo et de Nansen, qui deviendront à leur tour de grands maîtres spirituels du Zen en Chine. Il aura plus de 139 successeurs dans le Dharma, et son enseignement est la source même de ce qui deviendra l'école du Zen Rinzai au Japon. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'est écrit. Un moine demande simplement à Matsu, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Cette question, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» est l'une des questions ritualisées du Zen. Mais que demande-t-elle vraiment? Rien d'autre, en fait, que la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est l'essence ultime du Zen? On la retrouve dans de nombreux koans. Par exemple, dans le koan 18 du Momonkan, un moine demande à Tozan, « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Et celui-ci répond, « 3 livres de lait. » Dans le koan 21, le maître Unmon dira plutôt, « Une mer de séchée. » Dans le koan 33, le patriarche Ma lui-même répondra cette fois, « ni l'esprit, ni le Bouddha. La question demande, quelle est la vérité ultime? Et les maîtres répondent, trois livres de lait, une mer de séchée, ni l'esprit, ni le Bouddha. Que se passe-t-il ici? Quelle est la vérité? Et à nouveau, Nangaku est près de vous et vous dit à l'oreille, « Sache que Bouddha n'a aucune forme fixe. Ne discrimine pas, ne t'attache à rien. » Le moine demande, « Qu'est-ce que le Bouddha? Quelle est la vérité ultime? Croyez-vous qu'il espère une réponse philosophique? Non. Il ne veut pas que l'on lui donne d'autres mots. Serait-il même ceux du Bouddha? Il traîne déjà dans ses bras tous les mots du monde, comme des enfants morts. Il a déjà épuisé toutes les réponses. Il demande simplement, quelle est la vérité. Le maître Zen Shibayama nous dit, vous qui n'avez pas traversé de longues nuits d'insomnie, noyées de larmes et de souffrances, qui ne connaissez pas l'expérience de ne pouvoir avaler même une bouchée de pain, la paix de Dieu ne vous rejoindra jamais. Il y a aussi cette belle légende d'un rabbin à qui un élève rend visite et demande. Rabbin, dans le temps, il existait des hommes qui avaient vu Dieu face à face. Pourquoi n'y en a-t-il plus aujourd'hui? Le rabbin répondit, parce que personne aujourd'hui ne peut plus s'incliner assez profondément. Il faut apprendre, lorsque l'on pratique le zen, à s'incliner profondément. Comment le fait-on? D'abord, en ne refusant rien de tout ce qui se manifeste en nous, que ce soit en zazen ou dans notre vie quotidienne. L'on cesse de prétendre que l'on est ceci, mais pas cela. Le zen veut toute votre vie. Il veut que vous cessiez de protéger une image factice de vous-même et que vous vous ouvriez à tout ce qui se manifeste en vous sans rien en refuser. C'est comme être traversé par des vents. Voici les vents de toutes nos vexations et nos humiliations, les vents de nos déceptions, de nos peines, de nos rages d'impuissance, mais aussi ceux de nos joies et des moments paisibles de notre vie. Les vents de nos désirs et de nos peurs, ceux de nos découragements, les vents de nos espoirs et ceux des mille pensées qui tournent en nous. Imaginez que vous êtes une plaine immense et que tous ces vents vous traversent sans cesse, jour après jour, saison après saison. Laissez tous ces vents et toutes ces saisons vous traversez. N'en refusez rien. Ne dressez aucun barrage contre eux. Laissez-les vous débarrasser de toutes les images toutes faites que vous vous faites de vous-même. Ces mille et un vents qui vous traversent sans cesse, c'est votre propre vie qui se révèle. Apprenez à vous incliner devant elle. Laissez-la se révéler sans masque. N'exigez rien d'elle. Ne tentez pas de la maquiller ou de lui faire porter des vêtements qui ne sont pas les siens. Laissez votre propre vie vous traverser avec tous ses vents, et vous verrez bientôt que cette vie est libre, qu'elle n'est pas la vôtre, qu'elle n'appartient en fait à personne. C'est une vie humaine, tout simplement. Une simple vie humaine. Elle n'a aucun nom, aucune identité, aucune forme, ni œil, oreille ou nez, ni langue, esprit ou corps, pas de couleur, d'odeur, de son, rien à goûter, rien à toucher, rien à penser ou percevoir, comme nous le dit le Sutra du cœur, le Prajnaparamita. Comme l'a écrit un jour notre vieux maître, que peut-on vouloir de plus que simplement vivre? Nisargadatta, que M. Lo affectionnait tant, nous rappelle quelque part que tout apparaît dans le grand miroir de la présence. Seule la mémoire donne à ce qui apparaît d'instant en instant un semblant de continuité. Et la mémoire est matière, destructible, périssable, éphémère. Nous construisons sur ces fondations fragiles une impression d'existence individuelle, vague, intermittente, qui ressemble au rêve. Et pour enfin vous incliner encore plus profondément, ne retenez rien de tout ce qui monte en vous. Laissez tous les vents qui vous traversent continuer leur chemin. Ne les retenez pas. Ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à la vie elle-même. Laissez-les vous transpercer et s'en aller. Si vous n'intervenez pas, ils se libéreront d'eux-mêmes. Soyez comme l'oiseau porté par ses ailes, nous dit encore Nisargadatta. Ne laissez aucune empreinte de pas. Qu'est-ce que le Bouddha? Le moine qui interroge Matsu s'appelle Dabai. L'on raconte qu'en entendant la réponse du maître, l'esprit, c'est le Bouddha, il connut un éveil profond. Il quitta peu après le monastère pour s'isoler dans un ermitage en forêt et y poursuivre sa pratique du zazen dans la solitude. Mais qu'a-t-il vu? Rappelez-vous cet autre koan du Mumon Kan. Bodhidharma demande à Wike, « Que cherches-tu? » « Je veux trouver la vérité, » répondit Wike. « La vérité? Alors je n'ai rien à te donner, » dit Bodhidharma. « Je n'ai rien à te dire. » Mais Wiki poursuivit, « Maître, mon esprit n'est pas en paix. Pouvez-vous l'apaiser? » Bodhidharma lui répondit, « Apporte-moi ton esprit et je l'apaiserai. » Et Wiki dit enfin, « J'ai cherché mon esprit partout, mais je vois maintenant qu'il est inatteignable. » Et Bodhidharma lui dit alors, « Alors, je l'ai déjà apaisé. » Lorsque Wike dit enfin, « J'ai cherché mon esprit partout, mais je vois maintenant qu'il est inatteignable. » Il s'incline profondément. l'esprit est inatteignable et on ne le trouve nulle part dans les mots que l'on utilise pour en parler. C'est comme un grand silence qui ne peut jamais être brisé et au cœur duquel tout apparaît. Dilgo Khyentse Rinpoche, l'un des grands maîtres du bouddhisme tibétain, nous dit « L'esprit n'a ni forme, ni couleur, ni substance. C'est là son aspect vide, inatteignable. Mais il peut connaître des choses et percevoir une variété infinie de phénomènes. C'est son aspect lumineux, c'est-à-dire connaissant. L'union inséparable de la vacuité et de la luminosité constitue ce que l'on appelle l'esprit originel immuable. Et le maître Rinzai lui fait écho en disant « L'esprit est sans forme et pénètre les 10 directions. Dans l'œil, on l'appelle voir. Dans l'oreille, on l'appelle entendre. Dans le nez, il sent tous les parfums de l'air. Dans la bouche, il goûte les saveurs et parle. Dans les mains, il touche et saisit. Dans les pieds, il court et transporte. C'est partout une seule lumière, et elle traverse de façon harmonieuse tous nos sens. Si l'esprit est vide, alors, où que vous soyez, vous êtes pleinement émancipé. L'esprit est sans forme, mais se manifeste partout. Lorsque vous êtes en zazen, vous pouvez en entendre l'écho tout autour des pensées, des sensations, des émotions qui apparaissent en vous. C'est une sorte de silence qui est toujours là, derrière les choses qui passent. Un silence qui ne bouge pas. Il reste intact, immobile. Déplacez simplement votre attention vers lui. Laissez votre attention quitter les contenus de votre esprit. Cessez d'être captivé par tout ce qui bouge en vous. Et portez votre regard vers cette sorte d'immensité silencieuse qui est toujours là. Soyez simplement attentif. N'y pensez pas. N'en faites pas quelque chose. Restez immobile, l'esprit tendu comme une question muette vers ce mystérieux silence. Un jour, un moine nommé Dabai demanda au maître Matsu « Qu'est-ce que le Bouddha ?» Et le patriarche Ma lui répondit « L'esprit, c'est le Bouddha. » Maintenant, allez au-delà des mots. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous?